Gemma Bovary de Bosie Simmons.
Adaptation radiophonique Lili Stein.
Neuvième épisode.
Retour aux sources.
Le bonheur tient-il à une lettre? Le mien était sans doute trop beau pour durer. Mon amant a pris peur. Il est retourné à ses chères études et moi, à ma vie en miettes. Tout ce que j'avais cru construire s'est effondré en un instant. Hervé est sorti à jamais de ma vie. Et maintenant, je vais devoir affronter Charlie.
T'écris à Delphine?
Non, Delphine, c'est la cata. Elle veut plus me parler, elle m'a renvoyé ma lettre. Non, j'essaie d'écrire à Gemma.
Gemma? Pourquoi? Je croyais que c'était fini avec elle.
Ouais, mais elle a cette statuette de valeur qui nous appartient. Elle s'est cassée et Gemma devait la faire réparer par son mari. L'ennui, c'est que ma mère part en Normandie, elle va voir qu'elle y est plus. Elle va faire sa crise. Faut que je la récupère avant.
Envoie-lui un mail. Écris pas une lettre fleurie qui va l'encourager. Cette femme est un désastre.
Non, Arnaud. À plein d'égards, elle était parfaite. Je pense qu'elle mérite une lettre.
Cher Gemma.
Tu avais raison quand tu disais que le bonheur ne peut durer éternellement.
J'aurais tant voulu que nous puissions continuer à vivre ces moments heureux, mais il faut accepter la réalité. Je garderai toujours le souvenir des instants précieux que nous avons partagés. Je ne t'oublierai jamais. Je t'embrasse. Hervé. Post-scriptum. Concernant la statuette de Sèvres, pourrais-tu me faire savoir si elle a été réparée? Même si elle ne l'est pas, il faut absolument que je puisse passer la récupérer. Tu peux laisser un message chez mon ami à ce numéro. Merci d'avance.
Charlie a fait une remarque. Demander de qui ça venait, j'ai dû faire diversion. En réalité, je voudrais que Charlie le sache. Maintenant que c'est fini entre moi et Hervé, ça me rend malade de garder ce secret. J'ai jamais pensé qu'il écrirait. Un bon point pour lui. J'avais complètement oublié la foutue statuette. Toujours au fond du tiroir, sous mes collants. Je n'ai jamais trouvé le bon moment pour en parler à Charlie. Puisqu'Hervé a pris son temps pour m'écrire, je prendrai le mien pour lui répondre. Qu'il mijote un peu.
Hervé?
Oui, maman.
Écoute, je ne pense pas qu'on nous ait cambriolés, mais il manque un des petits Sèvres. Cupidon et Psyché, tu l'as pas déplacé par hasard?
Non, mais il a été ébréché.
Ébréché? Et comment?
Mais je sais pas.
Ah, tu ne sais pas. Et où est-il?
Je l'ai donné à réparer.
Où? Tu l'as donné à qui?
Je l'ai donné à un Anglais.
Un Anglais? Hervé, qu'est-ce qui t'a pris? Il faut un spécialiste.
Mais maman, ça peut attendre.
Non, ça ne peut pas attendre. Où as-tu trouvé ce monsieur?
Mais, en fait, c'est un...
Cesse de marmonner Hervé. Bon, je suppose que cette personne est un restaurateur professionnel.
Je crois, oui.
Quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu crois? Hervé, c'est de la folie, je veux cette statuette immédiatement.
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Salut.
Bonjour, monsieur. Je cherche monsieur Tate.
Tate? Ah, non, c'est ma femme. Je suis Charlie Bovary.
Bovary, hein. Bonjour. Je suis Florence de Bressigny. You speak French, yes?
Yeah, a little.
Je crois que mon fils vous a confié un petit Sèvre endommagé.
Sèvre? Sorry? Pardon?
Oui, figurine de Sèvre. En porcelaine. J'espère que vous n'avez rien fait dessus. Je suis sûre que vous comprenez que c'est une pièce de valeur. Il faut la montrer à un restaurateur de Paris.
Désolé, madame, je ne comprends pas. Je sais rien de ça, ok? Je n'ai ni sèvre, ni porcelaine. Et je ne connais pas votre fils. Je ne sais rien. Nothing. Nix.
Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Mon fils m'a clairement dit avoir confié la pièce à un Anglais à cette adresse. Ça peut être que vous.
Madame, vous faites erreur. J'ignore tout de cette pièce de sèvre.
Y a-t-il quelqu'un ici qui...
Ma femme sait peut-être quelque chose, mais là, elle est sortie.
C'est une affaire très préoccupante. Bon, je vous laisse ma carte avec mon téléphone. Peut-être aurez-vous la bonté de demander à votre femme de m'appeler à Paris. Je rentre ce soir. Au revoir, monsieur Tate.
Bovary.
Oui, Bovary. Monsieur Tate, Hervé. C'est un Anglais repoussant. En maillot de corps. Un bonhomme antipathique. Il m'a dit qu'il s'appelait Charles Bovary. Pas Tate.
Ah si, Tate, je vous assure.
Et pourquoi m'a-t-il donné un faux nom? Charles Bovary. Et quoi encore? Bon, quoi qu'il en soit, il affirme ne pas te connaître. Il n'a pas notre sèvre. Il prétend ne rien savoir. Comment tu expliques ça? Il a suggéré que sa femme pourrait savoir quelque chose.
Sa femme? Ah oui, sa femme. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Elle doit savoir, c'est elle qui dirige l'affaire. Monsieur Tate répare les choses. Elle dit qu'il est un peu dans les nuages. Vous en faites pas, maman, je vais l'appeler, je m'en occupe. Laissez-moi faire.
Si c'est avec Madame Tate que tu as négocié, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Où as-tu rencontré cette femme, Hervé? Hervé, réponds-moi.
À Rouen.
Où, à Rouen? Allez, où?
Au Leclerc.
Tu veux dire que tu as confié un bien de famille à une femme que tu as rencontrée au supermarché? Mais t'es devenu fou. Elle l'a probablement déjà vendue.
Maman, pas du tout. Elle m'a dit que son mari était restaurateur et j'avais remarqué le pied cassé de la figurine quand j'étais dans le salon et j'ai pensé que...
Mais tu as pensé la confier à ces étrangers bizarres, ce soi-disant Charles Bovary et sa Madame Bovary, je suppose. Non mais franchement, Hervé, elle n'est pas venue à la maison aussi.
Non, enfin je veux dire, pas longtemps, juste pour constater les dégâts, une minute à peine.
Et elle est entrée dans le salon, n'est-ce pas, Hervé?
Non, enfin, elle a juste pointé le nez à la porte.
Pointé le nez. Je vois. Merci, Hervé. Ça explique le pâté sur le plateau, les mégots de cigarettes et les deux tasses à café que j'ai trouvées fourrées sous un fauteuil. Et ça explique peut-être aussi autre chose que j'ai ramassé par terre près de la chaise longue.
Écoutez, maman...
Tu me dégoûtes. C'est ignoble. Tu me déçois beaucoup, Hervé. Quand je songe que je t'ai fait confiance et que tu me remercies en me servant tous ces mensonges, je comprends maintenant pourquoi tu as insisté pour rester là-bas. Tu passais tes journées au lit avec cette femme au lieu d'étudier. L'idée que mon fils fricote avec une femme mariée est tout simplement répugnante. Une Anglaise en plus. Mais tout s'éclaire à présent. Voilà pourquoi Delphine ne veut plus te voir, pauvre idiot. Tout ce que tu vas gagner, c'est de la perdre. Bien. Tu vas dire à cette Madame Bovary que si elle ne me rend pas immédiatement la statuette, je prendrai des dispositions légales.
Aujourd'hui, j'ai retrouvé plein de lettres jamais ouvertes. C'est affreux, je les avais enterrées. Les deux cartes de crédit sont dans le rouge. J'ai accumulé une montagne d'agios sans m'en rendre compte. Je suis dans la merde. Inutile d'en parler à Charlie, il est dans une merde encore pire. Il part à Londres demain pour trouver un arrangement avec le fisc. Il est bizarre ces temps-ci. Se rase tous les jours, se fait couper les cheveux. Il n'arrête pas de me regarder comme s'il était sur le point de me dire quelque chose. Mais il se tait.
À quelle heure tu pars?
Maintenant. Gemma, le nom de Bressigny, ça te dit quelque chose?
Non, pourquoi?
Une madame de Bressigny est passée me voir l'autre jour. Elle dit que son fils m'a confié une porcelaine à réparer. Première nouvelle, elle m'a pratiquement accusé de mentir. Ça m'a rudement contrarié.
Charlie, écoute, je suis vaguement au courant... La figurine, elle est dans la commode. Écoute, il faut que je te parle.
Non, je ne crois pas, Gemma. Ou plutôt, je devine de quoi il s'agit et je ne veux pas savoir.
Charlie, écoute. Tu veux bien écouter? Oui, je suis désolée.
Gemma, je ne veux pas le savoir, ok? Bon, il faut que je...
Attends, parle-moi. Arrête de fuir. Parle-moi, Charlie.
Te parler? T'as du culot. Dis-moi et dis-moi que tu ne fous rien, que tu planes sur ton petit nuage rose. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué. Et là, d'un coup, tu veux parler. J'ai pas le temps de parler.
Tu rentres quand?
Je ne sais pas.
Cela ressemble à un de ces étés enfuis dans un vieil album photo. L'histoire d'amour entre Gemma et Hervé était terminée, et ma propre passion, qui avait flambé comme une fournaise alimentée par la jalousie et le désir, vacillait comme une flamme de veilleuse. Je me sentais calme, soulagé, presque normal. Au cours de mes balades, j'apercevais souvent Gemma de loin. Je commençais à la voir comme une jeune femme sans rien d'exceptionnel, promenant son chien. Bien sûr, c'était toujours une femme en convalescence d'amour. Être aimée lui manquait. Le sexe lui manquait. Mais elle était assez remise pour écrire...
De toute façon, avec Hervé, ça n'aurait pas marché. Finalement, c'est juste un jeune bourgeois, plutôt de droite, probablement. En Angleterre, j'aurais pris mes jambes à mon cou devant ce genre de type.
Puis ma femme m'a appris que Charlie était parti à Londres. Il avait des problèmes avec le fisc. Il devait beaucoup d'argent. Gemma aussi, en fait. À sa banque. En d'autres termes, ils avaient des dettes. C'est le mot « dette » qui m'a fait perdre mon calme. Pour Gemma, cela signifiait que le maléfice que j'avais cru contenu, captif, avait à nouveau brisé son réceptacle. Une influence maligne, un jeu de coïncidences horribles, la malédiction de Madame Bovary. J'ai eu peur soudain que rien ne soit fini, que Gemma soit condamnée à vivre le destin de l'héroïne romanesque. Un soir, une occasion d'en savoir plus sur ses dettes se présenta juste devant chez moi. La chienne Carrington, en chaleur, s'était enfuie en quête d'amour. Je suis parvenu à sauver son honneur.
Fichez le camp, sale clébard! Allez, Carrington, viens, 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 Carrington, tout le temps, toi, tout le temps! Carrington, viens, viens! Viens là. Alors, qu'est-ce que t'as foutu?
Allez, on arrive. Et voilà.
Oh, Carrington, viens, chien.
Merci beaucoup, Raymond.
De rien.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une minute? Je me demandais, j'ai un petit problème. Vous pourriez m'aider?
Mais bien sûr, avec plaisir.
Merci. C'est vraiment gentil à vous. Entrez, Raymond. Je vais vous servir de vin?
Oui. Non. Oui, oui.
Tenez, regarde ça. Si vous pouviez m'aider à leur répondre, je voudrais dire quelque chose pour les calmer. Le temps que j'arrange l'affaire, mais mon français n'est pas au point et... Voyez-vous, je ne l'ai pas volée, cette statuette. C'est juste que je ne la retrouve pas. Je crois que Charlie l'a emportée à Londres.
Elle avait reçu une lettre d'un certain Bernard Clos, avocat à la cour, la menaçant de poursuites judiciaires.
Madame, je m'adresse à vous à la demande de Madame de Bressigny, au sujet d'une statuette en biscuit de Sèvres, endommagée, qui vous a été remise il y a plus de 4 mois par M. Hervé de Bressigny à fin de restauration. À ce jour, la statuette n'a pas été retournée à ses propriétaires. Nous ne saurions insister sur l'importance que Madame de Bressigny accorde à cet objet de famille et comptons sur votre diligence pour la restituer à ses propriétaires légitimes dans les plus brefs délais. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.
En vérité, j'étais bouleversé. Je n'arrivais pas à croire que j'étais seul avec Gemma, dans sa maison, à l'endroit exact où Hervé de Bressigny s'était penché pour la prendre dans ses bras et dégrafer maladroitement son soutien-gorge. Assis près d'elle à la table de la cuisine, essayant de faire un brouillon de lettres, sentant son souffle chaud sur ma nuque, le cœur battant, les pensées en débandade, je n'ai rien pu écrire. Pas un mot.
Écoute, Gemma, je retourne chez moi. Je tape ça sur mon ordinateur, j'en ai pour 5 minutes.
Oh, vraiment, c'est... ne vous pressez pas. Si je l'ai dans 2 jours, c'est parfait.
Je lui ai répondu que d'ici 2 jours, j'aurais certainement pondu un chef-d'œuvre de prévarication. En me levant pour partir, je me suis souvenu du problème des dettes de Gemma. Peut-être à cause de la pile de papier sur la table. des factures de téléphone et d'électricité, plusieurs lettres recommandées. Elle a dû suivre mon regard car elle m'a souri tristement.
J'ai tout le monde sur le dos en ce moment. Je jongle avec mes cartes de crédit. Je peux venir quand chercher la lettre? Samedi?
Samedi, je serai à Rouen toute la journée. Nous vendons notre pain au marché.
Oh, je vais aussi en ville presque tous les samedis.
Ce que j'aurais dû faire m'apparaît si clairement aujourd'hui. J'aurais dû lui dire de passer à mon stand où l'affaire n'aurait pris que 30 secondes. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai suggéré un rendez-vous à l'heure du déjeuner.
On se retrouve où?
On se retrouve où, ai-je demandé, m'attendant à ce qu'elle me donne le nom d'un café ou d'une brasserie.
Je connais pas vraiment de café. Si je vais à Rouen, je serai à la cathédrale vers 12h30.
La cathédrale? Je faisais la pause sur le pas de ma porte. Ma tête ne cessait de travailler, façonnant et polissant la lettre que Gemma Bovary m'avait demandé d'écrire, lorsque la voix de klaxon de Madame Rankin a fait voler ma concentration en éclats. Elle préparait une grande fête pour son 40e anniversaire et ne voulait que mon pain pour son dîner. J'ai remarqué son compagnon immédiatement. Un Anglais d'environ 35 ans, dans tout son éclat de mâle, vêtu d'une veste en lin coûteuse, l'entrejambe très en valeur.
Elle en est à parler avocat. Elle ne me laisse voir Toby que deux fois par semaine. Jamais seule. La nounou doit être là.
Oh non! Quelle horreur! Mon pauvre chou! On va te distraire et faire la fête. Tu verras, j'ai complètement refait la maison. C'est une Anglaise qui m'a aidée pour la déco. Elle vit ici, un peu névrosée, mais douée. Elle s'appelle Gemma Tate.
Gemma Tate? Mais je la connais. Tu dis qu'elle vit ici?
Oui. Et tu sais que son mari vient de la plaquer?
Non. Je savais à peine qu'elle était mariée.
Son mari, Charlie, il a refait mes chaises. Il avait son air de chien battu. Après trois Bloody Mary, il a craché le morceau. Il m'a dit que Gemma se tapait un Français. Plus jeune qu'elle. Winter Fuck Festival. Je lui ai dit, si c'est fini, laisse tomber. Mais il a quitté. Un peu mélo comme réaction, non? C'est ici, la boulangerie dont je t'ai parlé.
Bonjour, Raymond.
Voici Patrick, un grand fan de votre pain. Il écrit sur la nourriture en Angleterre. Et il adore la France.
Jeudi. Aujourd'hui, horrible lettre recommandée de la banque d'ici. Le chèque de l'électricité a encore été refusé. Du coup, ils ont bloqué mon compte pour un an. Je ne peux plus faire de chèque. Vendredi. Je suis passée chez Wheezy. J'ai demandé une avance. C'était embarrassant d'exiger du cash. Elle m'a filé 1 000 euros avec des airs condescendants. Au moins, j'ai pu acheter de l'essence et de quoi manger. Je suis passée dans le salon pour finir la bibliothèque. Et là...
Salut, Gemma.
Putain! Mais Patrick, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fous ici?
Ah, je constate qu'on se parle encore. Bon... J'avoue, j'étais dans mon tort la dernière fois qu'on s'est vu.
Patrick, qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venu voir Mark et Wizzy. C'était des amis de Pandora. Mais ils semblent avoir choisi mon camp. Oh, tu ne sais pas? Pandora m'a jeté. Je suis à la rue. Wizzy m'a recueilli.
Pandora l'a jeté? Oh. Petit pincement de satisfaction. Il n'a pas dit pourquoi, mais je le devine. Je ne savais pas ce que je ressentais. Ça me mettait dans un tel état de le voir. Le retour de Patrick, il manquait plus que ça. Il faut que je bosse, il faut que je me sorte de là, je ne veux pas le voir. Heureusement, il n'a pas prévu de rester très longtemps, il part après la fête de Wheezy.
On m'a retiré mon permis pour un an. Tu ne voudrais pas me conduire à la mer cet après-midi? Honfleur, Deauville?
Non, Patrick, j'ai du travail.
Ok, pas de problème. En tout cas, la France te réussit, Gemma. Bien les cheveux. Je te trouve très, très en forme.
Va te faire foutre, Patrick.
2 jours durant, j'ai lutté contre l'indécision à propos de mon rendez-vous avec Gemma. Le bon sens commandait de l'appeler pour annuler. Quant à la lettre que j'avais rédigée pour elle, je pouvais aussi bien l'envoyer par la poste. Mais, argumentait une autre voix en moi, Gemma a besoin de toi, elle a des dettes, son mari est parti. Tu peux lui offrir ton aide, la sauver de la ruine. Une troisième voix hurlait « N'y va pas, pense à l'endroit qu'elle a choisi pour cette rencontre, la cathédrale de Rouen. La malédiction de Madame Bovary frappe encore. Tout de suite après le rendez-vous d'Emma Bovary à la cathédrale, pendant cette infâme promenade en fiacre, elle devient la maîtresse de Léon. Souhaitais-je inconsciemment qu'elle devienne ma maîtresse ? À 11h30, je suis allé chez le coiffeur me faire tailler la barbe. À midi sonné, j'étais devant la cathédrale. J'ai imaginé Gemma impudique entre des draps d'autel. Était-ce mon destin de devenir son amant ? Je brûlais de la voir, pourtant j'étais terrorisé. « Ne viens pas, l'implorais-je, passe ton chemin. » En même temps, je l'exhortais à se presser. « Dépêche-toi. » À 12h55, il est devenu clair que Gemma m'avait posé un lapin. J'avais à la fois redouté et espéré son arrivée. J'aurais dû être soulagé qu'elle ne soit pas venue. Je ne ressentais qu'une fureur noire. En retournant vers le vieux marché, je jurais à chaque pas, maudissant sa jeunesse, son corps, son insouciance et moi d'avoir été un tel idiot. Rue Jeanne d'Arc, un grondement familier m'a fait regarder vers la gauche. Là, dans le flot des voitures, j'ai vu le combi rouge et blanc. Instantanément, tout a été oublié. Elle avait seulement été retardée. À nouveau, des images m'ont traversé l'esprit. La banquette de restaurant partagée, ma cuisse pressée contre la sienne. Il semblait y avoir un problème. Gemma était à l'arrière en train d'examiner le moteur. Je m'apprêtais à faire connaître ma présence quand un homme est descendu côté passager et a rejoint Gemma sur le trottoir. J'ai reconnu l'ami de Madame Rankin, Patrick, le prétentieux au français parfait.
C'est sérieux ?
Non, on fait toujours ça dans les embouteillages, il se chauffe.
À ma grande horreur, il s'est mis à tripoter Gemma, et bien qu'au début elle l'ait esquivée et chassée comme une guêpe, elle a fini par lui accorder son attention, lui enlacer la taille en levant les yeux vers lui.
Il suffit d'attendre, ça ira quand il aura refroidi le combi en refroidissement à air.
Mais pas moi, Gemma.
Je les ai laissés enlacés sur le trottoir. Une seconde de plus et j'aurais démoli Patrick, un bon coup de pied dans les tripes. J'ai marché sans but. Un peu plus tard, j'ai revu le combi qui s'engouffrait dans le parking souterrain de l'hôtel de ville. J'ai pensé glisser sous l'essuie-glace la lettre sur laquelle j'avais tant transpiré. Tandis que j'approchais, un mouvement m'a fait sursauter, un frissonnement des rideaux du combi qui avait été tiré. Le véhicule lui-même semblait se balancer doucement, oscillant sur sa suspension molle. J'ai pensé « Oh la salope, mais quelle salope, je pourrais la tuer !» Et sur cette malédiction, j'ai scellé le sort de Gemma Bovary.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons, adaptation radiophonique de Lili Stein. Neuvième épisode avec
Élodie Hubert,
Gemma Bovary,
Vincent Schmitt,
Raymond Joubert,
Laurent Lederer,
Charlie Bovary,
Léonie Pinjot,
Martine Joubert,
Lorenzo Lefebvre,
Hervé de Bressigny,
Anne Canovas,
Florence de Bressigny,
Brontis Jodorowsky,
Mark Rankin,
Chloé Baker,
Wizzy Rankin,
Julianne Egerix,
Patrick Large,
Antonin Chalon,
Arnaud,
Manika Auxir,
Delphine
et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Bruitage, Sophie Bissens.
Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre Henry, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande.
Traduction, Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël.
À demain.